Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir, mesdames et messieurs. Alors, au menu de l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des thèmes ci-après. Que faut-il faire pour augmenter les taux d'accès à l'électricité en RDC 62 ans après? Monsieur Idriss Koudié, ingénieur en génie électrique, est avec nous dans ses studios. Idriss Koudié, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous aurons également tout à l'heure un autre intervenant, Emmanuel Moussouyou, qui est le coordonnateur de la coalition des ONG de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP en sigle. Nous l'aurons tout à l'heure dans cette émission. Et dans la deuxième partie de ce programme, quel bilan faire du service rendu par la SNEL 52 ans après? Eh bien, nous allons recevoir dans cette émission M. Jean Bosco Kayombo, directeur général de la SNEL, et M. Désiré Baleka, chef de la section, les directeurs chargés de production, les directeurs AI chargés de la production, de l'exploitation à la Société Nationale d'Électricité. Pour participer à cette émission, appelez-nous au 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama, Alain Goy, à la mise en onde. Bienvenue à tous.
De Goma, au Canada, au Canada, au Canada,
au Canada, au Canada,
au Canada,
au Canada, au
Canada,
au Canada, au Canada.
Bienvenue encore une fois, ravi de vous retrouver fidèles auditeurs dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Eh bien, nous allons aborder notre premier thème du jour. Que faut-il faire pour augmenter le taux d'accès à l'électricité 62 ans après l'indépendance? Bien, la RDC figure parmi les pays ayant le plus faible taux d'électrification en Afrique, d'après la coalition des ONG de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP en sigle. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? Moins de 10% de la population congolaise dispose d'un accès à l'électricité, 35% dans les zones urbaines, avec 50% de taux d'accès à l'électricité à Kinshasa, et moins d'un pour cent dans les zones rurales. Et pourtant, le courant électrique est un facteur capital dans le développement d'une nation. Alors, que faire pour augmenter le taux d'accès à l'électricité à 62 ans après l'indépendance? Monsieur Idriss Koudié est ingénieur en génie électrique. Encore une fois, bonjour.
Et bonjour.
Ravi de vous retrouver dans cette émission. La première question est de savoir, d'après vous, quelles sont les causes, quelles sont les causes à la base de ce faible taux d'accès à l'électricité dans notre pays?
Alors, la première cause, c'est un problème de gouvernance, un problème de gestion du secteur de l'électricité. Il faut dire que déjà la politique d'implantation des ouvrages énergétiques dans notre pays n'a pas été très bien conçue dès le départ, et ce qui fait que 70 ans après, on est dans une situation de précarité énergétique à haut niveau. Et donc il faudrait également que donc parmi les causes, c'est que la question de l'électricité en RDC a été trop politisée. Mmh. Et pourtant, c'est une question purement technique. C'est vrai, la politique gère et puis contrôle, mais à un moment donné, nous sommes allés un peu trop bas, où la gestion de toutes les entreprises ou de tous les services qui prestent dans le secteur de l'électricité était placé sous la conduite des politiques. Donc soit vous êtes du parti X ou Y, et vous pouvez poster à ces postes-là,
Donc c'est la politisation d'abord qui a posé problème.
Oui, qui a posé les problèmes. Donc, au lieu de mettre l'accent sur les compétences, on a mis l'accent sur des appartenances politiques et tout. Mais également, le secteur de l'électricité, de 1960 jusqu'à 2011, n'était pas régulé. Et donc, on n'avait pas un cadre institutionnel très bien défini sur la question. Et en plus, c'est un secteur qui était monopolisé. Donc, il y avait que la SNEL qui pouvait y travailler. Parce qu'on a eu pour la première fois dans ces pays un document, une loi qui régit les secteurs de l'électricité et qu'à partir de 2011. Donc, la loi 0411. Et même si celle-ci présente beaucoup de faiblesses, mais c'est un outil très important qui définit les différentes questions du secteur. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Mais c'est possible d'y remédier si on arrive quand même à remettre les choses sur les rails.
Est-ce qu'on peut dire, à part la politisation, quels sont les autres problèmes? Est-ce que c'est un problème de moyens ou le pays est trop grand, le barrage ne produit pas assez, on n'arrive pas à couvrir l'ensemble du pays?
Non, il n'y a pas de problème de moyens parce que la RDC, les moyens, nous les avons toujours. Et puis, nous avions également bénéficié beaucoup de financement des bailleurs sur cette question. Mais le vrai problème, c'est un problème de gestion. Un problème de gestion, mais également la plupart des acteurs du secteur de l'électricité travaillent d'une manière dispersée. Et il y a également un problème de planification. La RDC, jusqu'à nos jours, n'a pas un plan d'électrification nationale qui soit validé par tous les prestataires. Il se pose également un problème de la politique énergétique. Elle n'est pas très bien définie. Et donc, chaque acteur travaille d'une manière isolée. Et cette façon de faire les choses d'une manière à vase clos, ça ne fait pas avancer le secteur de l'électricité. Mais tout se résume sur la gouvernance. Donc, c'est un secteur qui n'est pas très bien gouverné, qui n'est pas très bien géré. Nous espérons que maintenant que nous avons la loi, maintenant que nous avions les quatre cadres institutionnels, qui régissent ou qui coordonnent les secteurs. Donc, entre autres, il y a les gouvernements par le biais du ministère national de ressources hydrauliques et électricité. Il y a l'autorité de régulation, il y a l'ANSER et puis les provinces. Il faut dire également que le manque des normes, la RDC n'a pas des normes sur des questions énergétiques. Et ça, c'est parmi les éléments qui sont à la base de cette précarité énergétique.
Nous avons en ligne M. Emmanuel Moussouyou, coordonnateur du CORAP, la coalition des ONG de la société civile, pour les suivis des réformes et de l'action publique. Emmanuel Moussouyou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bien, d'après vous, quelles sont les raisons qui font que nous avons un faible taux d'électrification dans notre pays?
Ben, mon prédécesseur, je pense qu'il a abordé plusieurs aspects. Et je suis pratiquement d'accord avec lui. Mais moi, je voulais revenir sur notamment le problème de la vision du pays pour le développement du secteur de l'électricité. Parce que dans ce qu'il disait, effectivement, on peut constater que depuis la mise en œuvre du barrage Inga 1, Inga 2, là, on est dans les années 1992 et 10 ans après, le deuxième a été mis en place. Mais après, il n'y a pas eu beaucoup d'initiatives du côté gouvernemental. Donc, pour dire que la vision est restée pendant plusieurs années plutôt centralisée que décentralisée. Alors que, au fil des années, il y a toujours ce problème de démographique qui est constaté. Il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui, prenons le cas de Kinshasa, où les parcelles, à l'époque, je pense que quand la planification a été faite, le nombre d'habitants n'était pas comme celle qu'on a aujourd'hui. Les constructions se font tout le jour, le morcellement des parcelles. Donc, il y a beaucoup de problèmes démographiques, je pense, qui entrent en ligne de compte. Mais dans l'entretemps, du côté politique, on est resté avec cette vision plutôt centralisée. Donc, pour moi, je dirais que entre autres, au-delà de ce que le prédécesseur Judith a mentionné, il y a cette question qui reste centrale. Ça veut dire quoi une vision centralisée? C'est que on est resté dans l'optique de construire des grands ouvrages, le cas de Inga 1, Inga 2 dans le Congo central, pour desservir plusieurs provinces. Et vous allez vous rendre compte qu'il faut prendre, il faut construire une ligne de transmission qui prend beaucoup de kilomètres, qui part du Congo central, notamment à Inga, pour, par exemple, ramener de l'énergie dans le Chaba,
dans le Katanga,
la ligne Inga-Chaba. Et donc, déjà, sur le plan technique, je pense que M. Idriss va le confirmer, lorsqu'on construit des lignes de transmission qui prennent beaucoup de kilomètres, il y a un problème de perte d'énergie. Je pense entre 1000 kilomètres, il y a plus ou moins eu des pertes constatées autour de 40%. Donc c'est déjà un sérieux problème. Dans l'entretemps, ces lignes passent sur les toits des communautés, qui passent sur le toit des minages. C'est constaté dans les provinces comme le Grand Bandundu, le Grand Kasaï. Et donc cette vision-là centralisée qui consiste à construire des ouvrages à un endroit avec beaucoup de capacités pour les desservir un peu partout est très désavantageuse parce que au-delà du fait que il y a des problèmes de perte d'énergie. Il faut aussi noter le problème de coût. On peut, pour construire une assez longue ligne de transmission, il faudrait aussi beaucoup de moyens. Donc, pour dire que un des éléments aujourd'hui qui ne permet pas que le secteur soit développé ou que le taux d'accès à l'énergie puisse s'accentuer ou s'accroître, c'est au fait c'est le problème centralisé. Par contre, si la vision elle est décentralisée, on va construire des petits ouvrages un peu partout en RDC parce que la place où les énergies renouvelables, au-delà du potentiel que nous avons, cette place justement nous permet aujourd'hui de constater que nous avons un potentiel qui est réparti à travers l'ensemble du territoire national. Ce qui fait que s'il faut aller simplement dans l'hydroélectricité, il est possible de construire plusieurs barrages à travers le pays. Et ces barrages vont coûter moins par rapport aux grands ouvrages en termes de construction. Ces barrages vont coûter, vont prendre un peu moins en termes d'années de construction par rapport aux grands ouvrages. Mais aussi, ça sera à proximité des communautés, alors que le grand ouvrage, il faut qu'il y ait aussi des grandes usines pour, n'est-ce pas, consommer cette énergie qui s'approche. Donc, je vais résumer pour dire que le plus grand problème aujourd'hui, c'est la vision pour le développement du secteur. Et dans la vision...
La politique énergétique.
Tu vois... Pardon?
La politique énergétique.
Je ne parle même pas... Oui, c'est-à-dire que la politique de l'énergie doit être mise en place parce que c'est la base. À imaginer que toutes ces années passées, nous n'avons pas une politique. On peut dire qu'on a une loi, mais on n'a pas des orientations claires qui permet à l'État de prendre des options qu'il faut par rapport à chaque coin du pays, par rapport à chaque besoin spécifique identifié. Donc, la politique de l'énergie, c'est vraiment un outil qui pourra aider à ce que les choses puissent aller vite et bien coordonnées. Alors, le fait que ça n'existe pas, c'est aussi un grand frein dans le développement. Donc, pour revenir en arrière, c'est que la base ou l'élément central, c'est justement cette vision autour d'une politique. Mais après, il y a des éléments aussi qu'il faut considérer, notamment mon prédécesseur, je pense qu'il a abordé un aspect qui est donc la gouvernance. Quand on parle de la gouvernance, pour voir, depuis plusieurs années, le secteur est resté centralisé autour de la SNEL. Et... Non, c'est bon. Donc le problème autour de la gouvernance même du secteur qui prend en compte comment est-ce qu'on gère l'entreprise publique. Et depuis des années, il n'y a que l'État qui est resté actionnaire majoritaire malgré la libéralisation qui est arrivée en 2014. L'État qui est resté actionnaire majoritaire. Mais il a parlé du clientélisme, il a parlé de beaucoup de choses qui sont constatées.
D'accord.
Et je pense que c'est l'ensemble de tout ça qui constitue aujourd'hui la plus grande faiblesse qui ne permettra pas au pays si seulement il n'y a pas de mesures concrètes qui sont prises pour développer le secteur.
Eh bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons Platini Mbombo en ligne depuis Mbandaka et Charles à partir de Lubumbashi. Platini Mbombo, bonjour.
Je dis bonjour, je salue l'invité du jour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour augmenter le taux d'accès à l'électricité dans notre pays?
Voilà, voilà. Merci Jody pour m'avoir accordé la parole. Je pense que j'ai bien suivi l'invité parce que il a parlé, oui. Il a cité aussi d'autres provinces, mais il n'a pas fait allusion à l'Équateur. Et la politique, comme il a dit là, parce que je l'ai bien entendu, ce qu'il a dit, c'est bien.
Mais moi, je... À l'Équateur, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité.
Oui. Hein, ça, c'est... Jody, avant de poser une petite question, je voudrais faire allusion à une chose.
Oui.
Je prends le cas des grands équateurs. Parce que quand on parle de l'équateur, il faut voir à globalité, donc des grands équateurs.
Il n'y a pas de courant.
À l'époque, oui, non. Non, je viens, je descends un peu. Parce que pour le moment, nous avons au moins 5 provinces. Il y a Nord, Sud, Mongala et la Chop. Et si je prends, je fais la cartographie, il y a les provinces du Nord ou Bangui qui a un peu l'énergie. Là, c'est simple comme Badoulité. Parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle les barrages des Mobaïmbong. De la ville de Manaka, depuis l'époque coloniale, lorsque nous on était petits, là à l'époque, là, on voyait qu'il y a sur au cours de la route, on voit un peu des petits sédiments, mais en dessous là, on met un peu des cailloux au lit. Mais le jeune gens d'aujourd'hui, il n'y a pas un courant dans la ville de Manaka. Mais la SNEL est là, toutes les câbles sont là, mais à tout moment, il y a en panne des groupes, en panne et en panne et en panne. Alors comme l'invité a dit aujourd'hui, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la politique de l'énergie.
Quelle est votre question rapidement par rapport
à... première question que je vais poser, nous avons tout un barrage de Mobaïmbongo. Mais pourquoi nos énergies, nous Congolais, nos énergies, c'est dans d'autres pays. Je prends un exemple comme la RCA, utilise le courant de Mobaïmbongo. Là, il n'y a personne vous trouve. Et aussi, je prends un exemple ici comme le cas de la SNEL. Je pense que SNEL, c'est une société para-étatique de l'État qui prend un peu de moins pour le fonctionnement. À Kinshasa, oui, là, je fais dire quand même au moins à 85%. Mais pourquoi à l'Équateur, à Manaka, le courant de SNEL n'existe pas? Pourquoi? Mais il y a tout un structure de SNEL ici dans la ville de Manaka. Voilà ce que je veux avoir un peu l'idée et l'éclaircissement autour de ça.
Bien, merci. On va donner la parole à Charles de Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi aux invités.
Quelle est votre préoccupation?
62 ans après M. Jody, la SNEL est l'un des grands services de l'État pour faire honte jusqu'à présent. Malgré nos barrages, Yanamwanga, Mwadzingusha, Katende, Inga, Enzilo, et que sais-je encore. Alors, c'est vraiment honte et déplorable. Dans l'historique, on nous a appris que l'énergie électrique consistait à alimenter les sociétés minières. Et c'est ainsi que la population riveraine arrivait à être desservie frauduleusement. On ne sait pas si c'est la même politique qui continue ou pas. Alors, vous verrez que notre courant est en train de servir presque le monde entier. Mais les pays-là qui s'en servent de notre énergie, de notre courant, il n'y a pas de délestage. Il n'y a pas ce que nous assistons ici au Congo. Mais, là, ils sont comme locataires ici. Si,
alors, quelle est votre question? D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter le taux d'accès à l'électricité?
Non, moi je voulais un peu savoir de l'invité. Est-ce que c'est l'Occident qui gère la question de l'énergie électrique au Congo? Parce que ici, ça se dit que le gouvernement congolais est comme simple étiquette. Le gouvernement congolais n'a pas une main mise sur ça. C'est l'Occident qui gère. Alors, nous voulons un peu savoir, est-ce que réellement c'est le gouvernement qui gère, qui s'en charge, qui s'en occupe, ou bien c'est bel et bien le monde occidental? Voilà un peu ce qui nous dépasse.
Bien, merci. On va accueillir un autre auditeur depuis Mahagi, c'est Étienne. Bonjour.
Bonjour, Jody Daniel. Bonjour à monsieur l'invité et bonjour à notre directeur de la radio Capitale.
Quelle est votre préoccupation, Étienne?
Merci beaucoup. La question du jour, c'est qu'est-ce qu'il faut pour revoir à la hausse le taux de l'augmentation de l'électrification 62 ans après l'indépendance? Jody Daniel Kachama, c'est une question très intéressante. En saluant l'invité en passant, le gouvernement congolais doit d'abord revoir sa politique énergétique en RDC. pourquoi je dis cela. L'énergie, l'électricité est un facteur très très important. Et c'est un secteur qui rassonne aussi beaucoup la caisse du gouvernement congolais. Mais ce qui se passe, il y a plusieurs villes dans ce pays qui sont dans les sombres. Entre autres, je cite ici à la commune de Madi, il n'y a rien comme l'électricité. Alors qu'il y a des petites eaux qui pourraient aussi servir pour construire des petites lignes centrales qui pourraient desservir la petite commune. Mais à mon avis, je vois que cette secteur semble être négligé. Et les amis de la SNL, ils doivent me pardonner. Ils doivent failli à leur mission. Ils ne doivent pas seulement fonctionner au bureau à Kinshasa, mais ils doivent se déployer sur terre pour voir la réalité. Qu'est-ce qui se passe dans les provinces? Parce que dans le sombreté, c'est vraiment, on est exposé à plusieurs insécurités. Donc, le gouvernement doit un peu revoir sa politique, redynamiser et formuler même de nouvelles lois à ce secteur pour que ce problème soit résolu.
Bien, merci. Merci à vous, ingénieur Idriss Koudi. Vous avez écouté les préoccupations des auditeurs. À vous la parole.
Oui, je commence par l'auditeur du Katanga. Et donc, je dois vous rassurer, chers frères, que le potentiel énergétique de la RDC, c'est un patrimoine congolais. Et donc, il n'y a aucune main étrangère sur le potentiel énergétique de la RDC, ni sur la Société nationale de l'électricité. Alors, certes, la plupart des ouvrages énergétiques ont été construits pour desservir à grande échelle les secteurs miniers ou encore les secteurs forestiers, et juste pour permettre à ce que l'exploitation soit effective. Et donc, les populations congolaises dans l'ensemble n'étaient pas prises en compte sur cette politique entre guillemets d'électrification, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons ces problèmes. Je crois que j'ai parlé tantôt de la mauvaise gouvernance du secteur de l'électricité, et ce que vous relevez, donc la précarité énergétique et sur l'ensemble du territoire congolais, évidemment, c'est pas parce qu'il y a des étrangers qui gèrent, non. Il n'y a aucune main étrangère là-dessus. C'est vrai que la SNEL n'a pas été à la hauteur pendant ces 52 ans d'existence. Une entreprise qui a été politisée, je l'ai dit tantôt, et avec tous ces problèmes, elle n'a pas suivi également l'évolution démographique de la population, ce qui fait qu'on arrive à ces stades. Et par rapport à la question de notre ami de Mbandaka,
ou à Mbandaka, à l'Équateur,
oui, nous connaissons très bien la situation énergétique du Grand Équateur. Et pour votre information, le Grand Équateur a un potentiel solaire très énorme. Donc aujourd'hui, en principe, il n'y a pas de raison pour que cette province soit dans les noirs. Mais
augmenter les taux d'accès, il faut exploiter et aussi d'autres formes d'énergie.
Alors, il faut passer par les mix énergétiques. Alors, et c'est là où j'allais arriver. Il a dit, nous avons des barrages, mais on ne comprend rien. Il y a d'abord la vétusté de ces barrages, mais il se pose également un problème de transport énergétique. Et il faudrait savoir que le transport de l'énergie électrique coûte énormément de moyens. Et dans la plupart des agglomérations en RDC, nous avons un problème d'urbanisme. Vous allez trouver par exemple des villages, un village avec 5 familles, vous parcourez 5 kilomètres, vous avez un autre village avec 10 familles, et à un moment donné, ça devient une contrainte pour être desservi d'une manière énergétique. Et c'est pour cette raison, il serait souhaitable au gouvernement congolais de faire impliquer tous les ministères ou tous les acteurs directs et indirects qui sur la question de l'accès à l'électricité, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dépenser des millions de dollars juste pour desservir un village de 200 personnes. Donc l'électricité n'a pas été inventée en principe que pour la lumière et pour la télé. Donc, c'est, on donne l'électricité pour que cette électricité puisse générer des recettes. Et quand vous regardez la forme de nos villages, vous allez voir qu'à un moment donné, il se pose un problème. Et c'est pour cette raison maintenant qu'il faudrait migrer vers d'autres formes d'énergie. Par exemple, les solaires, vous pouvez les produire au même endroit de la production et vous consommez et également. Et c'est pour cette raison que nous conseillons toujours au gouvernement de ne pas seulement s'atteler sur l'hydroélectricité, parce que vous pouvez produire, mais si les villages se retrouvent à des milliers de kilomètres, ça va poser des problèmes, non seulement des problèmes logistiques ou techniques, mais également le problème financier. Nous sommes conscients que le Grand Équateur ou la RDC en général est complètement dans les noirs. Mais nous insistons, c'est comme ça que nous disons qu'il faut une politique de proximité, qu'il faudrait partir sur le besoin local de chaque agglomération de notre pays, parce que toutes les provinces, toutes les agglomérations n'ont pas la même réalité et n'ont pas le même contexte énergétique. Et je pense que si nous allons dans ces sens-là, nous pouvons augmenter les taux d'accès à l'électricité.
Donc il faut faire le mixte énergétique.
Mixte énergétique, mais avec de micro-projets. Et donc les gros projets, comme l'a dit Emmanuel, à un moment donné, ça prend beaucoup du temps pour la réalisation.
Qu'en est-il de la centrale solaire photovoltaïque de Maluku?
Bon, j'étais parmi des gens qui avaient dit que les projets étaient très mal conçus parce que les études n'étaient pas à la hauteur. Et que ces gens étaient là juste peut-être pour chercher de l'argent et puis partir. Si vous allez aujourd'hui, vous allez trouver que c'est un petit champ de maïs maintenant.
Il n'y a rien.
Il n'y a rien et nous espérons que le ministre des tutelles de ressources hydrauliques et électricité pourra faire un tour avec ses experts pour voir ce qu'il y a maintenant. Et donc voilà, il faut partir avec des projets qui sont très bien étudiés. Des projets qui sont très bien définis, mais il faut toujours partir sur base de besoins de la population. Est-ce que cette centrale de Maluku, par exemple, c'était une priorité pour la ville de Kinshasa? Pendant que nous avons Zongo qui n'est pas loin de Kinshasa, où il y a même des machines qui sont en bon état, mais il se pose un problème de transport. Et donc, il faudrait qu'on arrive à restructurer le plan d'électrification est très bien organisé, éviter un peu de trop politiser ce secteur qui est purement technique. Voilà.
Idriss, Emmanuel Moussouyou, vous avez suivi ce que Idriss a dit tout à l'heure. Il faut un mix énergétique pour augmenter les taux d'accès à l'électricité dans notre pays. Quel est votre avis?
Il a totalement raison. Il faut un mix énergétique. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut plus continuer après 62 ans à mettre en place une même politique qui est focalisée sur une technologie donnée. Si par exemple vous voyez l'actuelle loi portant secteur de l'électricité qui a été promulguée depuis 2014, qu'on a mentionné tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que cette loi, elle a développé la possibilité justement de mettre en place des projets énergétiques. Mais beaucoup plus, ces projets énergétiques se localisent autour de la technologie de l'hydroélectricité. Alors que la RDC a un potentiel énorme qui va au-delà de l'hydroélectricité. Comme on aime toujours le dire, les plus faibles potentiels solaires à la RDC dépassent le maximum du potentiel solaire qu'a l'Allemagne. Mais si vous allez sur le plan de développement des énergies solaires en Allemagne, la RDC ne peut pas faire face. Donc pour dire que le mix énergétique reste la clé pour le développement, n'est-ce pas, du secteur de l'énergie. Mais au-delà de ça, la question de notre ami de l'Équateur, qui voulait savoir pourquoi à l'Équateur, les choses ne changent pas. Moi, je pense qu'au-delà du fait que l'intérêt était beaucoup plus mis sur l'hydroélectricité, il y a aussi un aspect qu'on ignore de fois. La loi a été promulguée depuis 2014. Cette loi a consacré la libéralisation du secteur. Que veut dire libéralisation? C'est que aujourd'hui, n'importe qui n'importe quel développeur, n'importe quel bailleur de fonds peut venir avec un projet énergétique, le financer pour produire de l'électricité partout en RDC, parce qu'à l'époque, il n'y avait que la SNEL. Au-delà de la libéralisation, il y a un autre aspect qui est mentionné dans la loi, ou qui est, n'est-ce pas, un des résultats, un des éléments positifs de la loi, c'est la décentralisation énergétique. Malheureusement, depuis 2014, sur base d'un autre constat, on a l'impression que la notion de la décentralisation énergétique n'est pas encore captée par les différents acteurs du secteur. Parce qu'aujourd'hui, M. Idriss avait mentionné le cadre institutionnel. Il a identifié parmi ces cadres ou parmi ces acteurs qui peuvent agir dans le secteur, les provinces. Ça veut dire que chaque province actuellement a la possibilité d'amener des projets, des initiatives d'électrification et faire en sorte que sa province puisse bénéficier de ces projets-là.
Mais voilà, au-delà du mix énergétique, il faut une décentralisation, la décentralisation électrique.
La décentralisation, c'est une des conséquences de la libéralisation, de la promulgation de la loi de 2014. En réalité, 2014-2022, c'est pratiquement 6 ans. On devait voir dans certaines provinces vraiment des initiatives, de l'engouement dans le secteur de l'énergie. On a le cas de Goma qui reste un des plus bels exemples à donner aujourd'hui en termes de décentralisation énergétique, parce qu'à Goma, les autorités provinciales ont essayé de mettre en place des initiatives. Il y a beaucoup de projets à Goma aujourd'hui. On parle de Virunga SARL à travers tout le barrage qu'ils sont en train de construire, Matébé et autres. Vous pouvez trouver des entreprises comme nous, Rubibox, etc. Il y a vraiment un mix d'acteurs qui essayent aussi d'apporter le mix énergétique pour améliorer la problématique de la desserte en énergie dans la province. Ça devait être le cas pour plusieurs autres provinces. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui, tout d'abord de la compréhension de ces concepts de centralisation énergétique. Il y a un autre problème dans presque la majorité des provinces, des initiatives. Les autorités ne sont pas formées par rapport à comment est-ce que le secteur pourra se développer, alors que c'est beaucoup de possibilités. Donc, aujourd'hui, avec la loi, on ne peut pas quand même continuer à se plaindre que nos provinces ne se développent pas. Par contre, les autorités dans chacune des provinces devraient prendre le devant pour développer le secteur. Je pense que c'est un élément essentiel que toutes les autorités puissent s'y prendre. C'est comme ça que une de nos recommandations majeures qu'on a toujours autour, voire de la politique et de toutes les initiatives, c'est qu'il faut que le gouvernement central mette en place un cadre de renforcement de capacité des acteurs pour aider, n'est-ce pas, l'application de la décentralisation énergétique.
Bien, Emmanuel, on va accueillir. D'accord. On va accueillir les auditeurs, Safari depuis Gabarrière et Maître Omar de Kigalo de Kinshasa. Safari, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour également à des invités qui sont au plateau.
Safari, nous parlons de ce qu'il faut faire pour augmenter le taux d'accès à l'électricité. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Bon, je pense qu'il y a moyen. Ça ne peut pas dépasser le gouvernement, en fait. Mais je ne sais pas si on manque la volonté dans ces pays. En fait, face ici, on se retrouve parfois, monsieur Jody, devant une rivière qui possède déjà des chutes naturelles qui ne devaient pas poser problème pour installer plutôt les moteurs pour alimenter les gens. Mais en fait, parfois ils disent que non, les transports, je pense que les transports, vous connaissez c'est quoi les transports dans le domaine de l'électricité, mais les transports, les gens disent que ça coûte très 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 énormément cher. C'est pourquoi on n'arrive pas à avoir l'accès au courant. Et c'est ce que les gens disent. Mais ma question est de savoir, est-ce que c'est réellement que les transports coûtent très cher afin que nous n'ayons pas le courant dans ces pays? C'est peut-être ça une petite préoccupation.
Merci, Safari. Maître Omar Kigalo de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à tous les invités.
On vous écoute.
Merci, Jody, du verbe que vous m'adjugez. Les experts en développement ont toujours dit que l'accès à l'électricité est un indicateur de développement. Ça fait très mal après beaucoup d'années qu'on est toujours sous-développé. Mais avant de poser ma question principale, je voudrais un peu contredire l'invité. Quand ils disent qu'il n'y a pas de politique, je me demande de quelle politique s'agit-il. En 2014, une loi a été votée. Au-delà de la libéralisation et de la décentralisation. Cette loi a même apporté la juridiction du conseil électrique. Aujourd'hui, un abonné paie à traire en justice la SNEL. Nous avons gagné récemment un procès où un abonné préjudicié a vu ses droits être portés atteinte et a traire en justice la SNEL. Donc la politique est déjà établie. Il a encore dit qu'il n'y a pas de normes. Non, je ne sais pas de quelles normes s'agit-il, des normes techniques ou de normes législatives. Parce que la loi est claire, elle a tout prévu. Moi je pense, très cher, je dis, il y a un problème de manque de volonté. Je vous donne un cas. Moi j'ai habité au Congo central pendant beaucoup d'années. Ils n'ont pas de problème du courant électrique. On nous parle de deux lignes, ligne des Zomo, ligne d'Inga. J'ai habité à Kinshasa vers intendance, je crois, Makalala, vers trafic. Ils n'ont pas de problème de courant. Et les experts nous disent non, il y a un problème de ligne. Et aujourd'hui, à Kin, il y a des gens qui s'arrangent, il y a des gens qui ont deux lignes, trois lignes. Vous allez voir, toute l'année, il n'y a pas d'interruption du courant. On se pose des questions sérieuses. Un problème d'organisation, un problème de volonté. Voilà pourquoi je voudrais poser ma question unique pour demander aux invités. Quand ils disent politique et absence de politique, ils font allusion à quoi? Parce qu'en sociologie, quand on parle de la politique, on la définit comme l'ensemble de mesures pour réguler un secteur. La loi a été votée. Il y a plusieurs arrêtés qui ont été pris. Plusieurs mesures par les DG de la SNEL. Qu'est-ce qui manque si ce n'est pas le manque de volonté? Parce que ce qu'ils disent et ce que nous voyons sur le terrain est un contraste mais efficace. Moi, j'ai habité au Congo central, il n'y a pas de pompe du courant. J'ai habité à la gare centrale à Gombe. Pendant une année, on n'a eu que trois interruptions électriques, alors que dans d'autres coins de la capitale, il n'y a pas de courant. Donc, comment on peut expliquer ces contrastes mais sur le terrain? Et qu'est-ce qu'ils attendent réellement par politique? Parce que la loi existe, les mesures existent. Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter comme politique? Merci très cher, je dis, disons, ben, que vous m'avez adjugé.
Bien. Héritier, vous êtes à Bounia, bonjour. Bonjour, héritier de Bounia.
Bonjour.
Héritier, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter le taux d'accès à l'électricité?
Je pense que nous devons recourir aux grandes nations qui se sont déjà développées sur le plan électrique. Je prends par exemple l'Allemagne, l'Afrique du Sud avec ses raffineries d'or. Nous devons recourir à ces grandes nations qu'ils nous disent en quoi, qu'est-ce qu'eux ont fait pour qu'ils aient de l'électricité. Parce que c'est inacceptable que la RDC qui possède des rizières sur lesquelles nous devons ériger des centrales hydroélectriques, que nous restons dans le noir comme des chauves-souris, mais c'est joli, c'est inacceptable, on ne peut pas continuer comme ça, vu que l'électricité pourrait créer même des emplois pour nous les jeunes qui sont en chômage, et ça pourrait aussi permettre parce que nous puissions même raffiner nos minéraux que nous avons, ça fera des énormes, ça fera beaucoup, ça nous apportera beaucoup comme sur les plans sociaux, oui. Économiques, vraiment nous devons,
ça va permettre, ça va développer le pays en fait.
Bien sûr, c'est ça ce que j'avais comme préoccupation.
Merci Héritier. Idriss Koudi.
Oui, j'ai très bien suivi le trois auditeurs, mais je vais mettre un peu l'accent sur la question de Maître. Et il veut savoir qu'est-ce qu'on entend de la politique énergétique. Je les comprends, peut-être que c'est un problème du jargon. Je voudrais d'abord rassurer à Maître et puis à tous les auditeurs de la radio Capi que l'accès à l'électricité, c'est un droit qui est garanti par l'article, je crois, 48 de notre Constitution. Il a parlé de la loi, mais Maître, je crois que ce qu'il faudrait savoir est que cette loi, c'est vrai, c'est un très bon outil, mais c'est un outil qui présente beaucoup de faiblesses. Et pour votre information, vous pouvez parcourir cette loi du début jusqu'à la fin. Vous allez voir que la toute première faiblesse et la plus grande faiblesse de cette loi, elle parle que de l'hydroélectricité. Et pourtant, le pays régorge beaucoup de potentiel énergétique. Donc, s'il faudrait aller conformément à cette loi, donc tous ceux qui sont en train d'opérer dans les solaires, biogaz et tout, ils sont pas considérés comme opérateurs. La même loi définit très mal les concepts opérateurs. Selon la loi 0411, qui est opérateur, c'est celui qui produit, qui transporte et qui distribue. Et pourtant, si vous parcourez l'arrière de la RDC, vous allez voir que il y a beaucoup d'opérateurs qui sont dans les solaires, qui ne produisent pas, mais qui sont en train de distribuer ainsi de suite. Et donc, pour dire que la loi elle a été promulguée, mais elle n'a pas été vulgarisée. Elle n'est pas connue même dans les milliers des professionnels, cette loi. En principe, c'est une loi
On peut dire que le secteur de l'énergie a été libéralisé.
Oui, le secteur a été libéralisé, mais il y a beaucoup de contraintes même avec la même loi, parce que Maître a mis l'accent sur la loi. Donc déjà, la loi, elle présente beaucoup de faiblesses. Et non seulement elle a des faiblesses, mais cette loi n'a pas été suffisamment vulgarisée. Elle n'est pas connue. Si vous allez aujourd'hui à Mbandaka et poser la question, est-ce qu'il y a les abonnés de la SNEL, même ici à Kinshasa, il y a moins de gens qui connaissent leur responsabilité conformément à cette loi. Et d'ailleurs, nous proposons que cette loi soit révisitée. Alors, il parle de le secteur est libéralisé, mais nous devons faire beaucoup d'attention. Vous savez, en Afrique, et plus particulièrement en RDC, quand on libéralise un secteur, et à un moment donné, l'État s'est dédouané un tout petit peu de ses responsabilités, ce qui fait que le secteur est libéralisé depuis 2014, mais on se rend compte que jusqu'à aujourd'hui, nous avons qu'une seule société de l'électricité. En principe, l'État allait commencer par en créer d'autres.
Dans le Nord Kivu, il y a d'autres.
Bon, j'ai pas de société publique. L'État ne pouvait pas rester qu'avec la SNEL.
Bon, la SNEL est devenue une société commerciale.
Oui, et deuxièmement, comme vous parlez du cas du Nord Kivu, il y a également, vous allez voir qu'au Nord Kivu, tous les opérateurs qui sont en train de distribuer l'électricité, ils ne fonctionnent pas sur le même indicateur tarifaire. Et ça, c'est vraiment une exploitation de la population dans un pays organisé. Si l'autorité de régulation était à la hauteur, on ne pouvait pas se retrouver avec des différentes factures et avec tous ces opérateurs qui sont à Goma ou à Bukavu, parce que la même loi stipule que l'index de la consommation énergétique. Donc le prix est fixé par un arrêté interministériel, donc entre le ministère de ressources hydrauliques et puis le ministère de l'économie. Donc on se rend compte que tous ces problèmes que nous sommes en train d'énumérer ici, c'est dû à l'absence de la politique énergétique. C'est quoi la politique énergétique? En principe, la politique énergétique, c'est la stratégie, c'est l'autoroute qui prend tous les éléments et tous les éléments qui constituent la gestion du secteur pour faire en sorte que et les producteurs de l'énergie, les transporteurs, les distributeurs et les consommateurs et que tout le monde puisse se retrouver. Parce qu'on est dans un contexte du gagnant-gagnant. Donc vous produisez de l'électricité, oui. Mais il faut que cette électricité soit une électricité de bonne qualité. Et cette électricité ne doit pas seulement s'arrêter au niveau de la production, ça doit être transporter jusqu'au niveau des consommateurs. Et les consommateurs également doivent et payer comme ils doivent.
La distribution, tout ça.
Et donc, aujourd'hui, vous allez constater que la SNEL ou les Congo en général n'a pas de problème au niveau de la production.
Et au c'est niveau comme de ça la production,
il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. C'est nous au niveau avons, du transport et de la distribution.
C'est au niveau du transport et de la distribution. Je vais vous donner un petit exemple. Vous allez à Ngaba. La dernière fois que les installations de la SNEL, les câbles, ont été remplacés, c'était quelle année? Il n'y a pas longtemps que nous avions connu le désastre de Matadi Kibala. Mais il faut se poser la question, la dernière fois que les réseaux de distribution de la SNEL a été remplacé, je ne parle pas de remplacement de quelques morceaux de câbles, ainsi de suite. Et donc, si les Congo avaient un fonds national pour la maintenance du secteur de l'électricité, on aurait dû éviter tous ces problèmes. Donc aujourd'hui,
avec l'explosion démographique, il y a les gens qui tirent les courants à leur manière. Vous avez tous ces phénomènes des gens qui ont deux, trois, quatre lignes dans leur parcelle.
Parce qu'il n'y a pas une politique énergétique. Donc je disais tout à l'heure, la politique énergétique, c'est comme l'autoroute, les trains, qui va faire en sorte que toutes les stratégies, tous les moyens. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit exemple. Vous allez constater que dans toutes les communes, dans la ville de Kinshasa, il y a les services de l'électricité. Mais vous allez constater que le chef des services électricité dans toutes ces communes n'ont aucune notion, n'ont aucune information sur le secteur de l'électricité. En principe, ce que la SNEL a le faire.
Ah pour, bon, ce ne sont pas des ingénieurs de la SNEL.
Le problème, ce n'est pas être ingénieur, mais il faut être quand même informé. Donc, on ne peut pas nommer un chef de service électricité dans une commune, mais il est complètement ignorant de tout ce qui se passe dans ce secteur. Aujourd'hui, mettre à soulever un élément les gens qui sont en train de se raccorder d'une manière frauduleuse. Mais c'est la SNEL qui raccorde ces gens-là. Moi, je ne connais pas et je ne vois pas quelqu'un qui va construire son immeuble ici à Kinshasa et puis il va se raccorder au réseau de la SNEL sans l'accord. Non, il n'y a pas de raccordement frauduleux parce que ces raccordements sont parrainés par les agents de la SNEL, soit par certains directeurs de la SNEL.
Emmanuel Moussouyou, à part le mix énergétique, la décentralisation énergétique, quelles sont les autres pistes de solutions pour augmenter les taux d'accès à l'électricité?
Merci beaucoup pour la question. Je pense que j'ai peut-être un petit mot à placer sur mes deux questions de maître, parce que je pense qu'il y a, au finish, quand lui il parle d'un problème de volonté politique, d'organisation, je pense qu'il a raison, parce que nous avions mentionné qu'il y avait un problème de gouvernance et qui devait aller dans la pratique. Mais je pense qu'en tant que juriste, il connaît qu'il y a certainement une différence entre une loi et une politique. La politique, comme lui-même il l'a dit, c'est vraiment un cadre qui est mis en place, qui détermine des grandes orientations claires par rapport au développement d'un secteur. Et là-dedans, il faut qu'il y ait une vision claire, échelonnée sur un certain nombre d'années. Et donc, pour le cas de la RDC, il n'existe pas un cadre qui, n'est-ce pas, donne des orientations claires par rapport au développement du secteur de l'énergie dans son ensemble. Par contre, il existe une loi. La loi est différente d'une politique parce que la politique vient avant la loi. La politique établit des règles, établit des grandes orientations. Hein. On n'est pas dans le détail, mais on est dans les grandes orientations. Et la loi vient appliquer ces grandes orientations, vient donner des précisions, vient ordonner. Et pour le cas du secteur de l'énergie, on peut se retrouver face à un contexte où on a plusieurs lois parce que le secteur de l'énergie, il faut vous rendre compte, il y a l'hydroélectricité, il y a des énergies renouvelables dans son ensemble, on peut voir des énergies non renouvelables. Et donc, aujourd'hui, la loi sur le... D'ailleurs, elle est intitulée « Loi portant secteur de l'électricité ». Donc, elle n'aborde que la question de l'électricité. Alors que même cette question de l'électricité, je venais de démontrer tout à l'heure qu'elle était beaucoup plus orientée vers l'hydroélectricité que les autres formes d'énergie renouvelable. C'est comme ça que quand vous posez la question sur le mix énergétique, il faut qu'il y ait cette politique de l'énergie qui a une vision plutôt globale, une vision qui cadre avec les engagements du pays en ce qui concerne le changement climatique, une vision qui priorise le développement des énergies renouvelables, chose que les différentes lois qui devront venir, parce que côté de la loi sur portant secteur de l'électricité, on peut avoir une loi sur les énergies renouvelables, on peut avoir une loi, déjà qu'il existe une loi sur les hydrocarbures, etc. Donc, vous allez comprendre qu'il y a une différence. Donc, le pays a une loi, mais n'a pas de politique.
Il n'y a pas de politique. Alors, pour clôturer...
Il n'y a pas de politique. Pardon ?
Pour clôturer, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on retient rapidement, M. Manier ?
En termes de solutions, justement, nous avons pensé qu'il faut vraiment accentuer ce mix énergétique. Et le mix énergétique, par rapport qui touche les projets, les micro-projets, pourra aider à ce que le développement puisse venir de la base. Parce que ici, nous avons un problème. Généralement, les projets énergétiques sont conçus pour de grandes entreprises et pas pour les populations. Alors que, cette fois-là, si on venait concevoir des projets autour des populations, ça veut dire qu'on va leur donner de l'électricité, la lumière, la possibilité de faire fonctionner leurs appareils. Et au-delà de ça, il faut qu'il y ait une politique sur le développement économique qui puisse suivre, c'est-à-dire mettre des communautés dans un contexte tel que l'accès à l'énergie pourra leur permettre de développer des projets, des initiatives économiques qui aura un bénéfice déjà sur le plan ménage, au-delà des ménages, ça peut créer des ressources au niveau communautaire, au niveau des provinces, et cela va créer de l'émulation au niveau national. Donc, il faut qu'il y ait cette politique économique aux côtés de l'électrification qui aussi peut n'est pas entraîner des initiatives qui vont dans le sens de développer une politique sociale. Parce que, n'est-ce pas, on a parlé des problèmes d'investissement, on a parlé des problèmes de facturation, etc. S'il n'y a pas une politique qui favorise les investissements pour que cela ait de l'impact sur l'accès des populations à l'énergie, c'est-à-dire que le secteur va rester, va demeurer pauvre toutes ces années, il n'y aura pas d'émulation. Donc,
d'accord, merci, merci Emmanuel, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, on n'a plus beaucoup de temps. Merci Emmanuel. On a compris. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la coalition des ONG de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement. Emmanuel Moussouyou, merci. Excellente journée et à la prochaine. Idriss Koudi, on va conclure avec vous ces échanges. Donc on retient que pour augmenter les taux d'accès à l'électricité, il faut travailler sur deux aspects, le mix énergétique et la décentralisation énergétique pour que chaque gouverneur dans chaque province puisse s'occuper de ces secteurs.
Alors j'aimerais ajouter aussi quelques éléments. Déjà, il faudrait que chaque gouvernement provincial puisse élaborer le plan d'électrification sectorielle. Donc ça c'est, et donc les gouvernements provinciaux ou les provinces ne peuvent pas compter que sur le gouvernement central. Mmh. Et chaque gouvernement, du fait qu'il y a un ministère de l'électricité, ils doivent se doter d'un plan d'électrification sectorielle. Et d'ailleurs, nous sommes en train de préparer une activité pour les Kwilu dans ce sens-là. Et autre élément, ce que le gouvernement doit privilégier le principe de subvention sur la question de l'accès à l'électricité pour faire en sorte que au bout de 5 ans et que toutes les provinces puissent avoir de l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, vous constaterez qu'il y a une forte concentration des opérateurs dans la partie est du pays, tout simplement parce que là-bas l'argent circule. Mmh. Alors, les opérateurs privés, ils se disent, bon voilà, je vais mettre 10 millions de dollars en Mbandaka, mais est-ce que la population sera en mesure de payer? Et ça, c'est le problème qui va se passer avec la centrale hydroélectrique de Kakobola dans les Kwilu si on ne change pas les choses. C'est-à-dire quoi? Une centrale qui va desservir Idiofa, Gungu et Kikwit. Mais si cette centrale n'arrive pas à générer chaque fin du mois à peu près 20 000 dollars parce que pour subvenir à la maintenance, mais également la prise en charge du personnel, ce qui fait qu'au bout de 3 ans, cette centrale pourra arrêter de fonctionner. Donc, le gouvernement doit accompagner les opérateurs privés pour dire bon voilà, le coût des revenus, par exemple à Mbandaka, dans les grands Bandundu et tout, la population ne sera pas en mesure de payer, par exemple, les kilowattheures à 1 dollar. Nous, en tant que gouvernement, nous allons mettre par exemple 0,6 dollars et la population pourra payer le 4 dollars. Bien. Alors, ce qui va faire qu'au bout de quelques années, nous pouvons avoir ce qu'on appelle l'équilibre d'accès à l'électricité.
Bien, merci Idriss Koudi. On a pris beaucoup de temps.
Okay, merci.
Vous êtes ingénieur en génie civil. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Génie électrique, expert en énergie renouvelable.
Voilà. À la prochaine. Pour une autre, on vous recevra certainement à une autre occasion. À la prochaine.
Merci.